Bonjour et bienvenue, je suis Calix et vous écoutez Easy Reader.
I want to reach you emotionally first. I want to make your flesh creep, I want to make your pulse race, I want to make your eyes tear up.
Je suis devenu romancier parce qu'un jour, quand j'étais gamin, j'ai ouvert un livre de Stephen King, que j'ai trouvé ça formidable d'avoir peur, que j'ai lu tout Stephen King, que j'ai eu très peur et qu'à un moment j'en voulais plus, et je me suis mis du coup à écrire des histoires qui font peur.
Easy Reader.
Soyez les bienvenus, entrez, installez-vous près du feu, mettez-vous à l'aise, nous allions justement commencer la lecture d'un nouvel ouvrage. Mais tout d'abord, je tiens à vous souhaiter une excellente année 2020, tous mes meilleurs vœux de bonheur, de succès, d'amour pour cette nouvelle année. Dois-je réexpliquer le concept de l'émission ? Auteur connu ou inconnu, oublié ou inoubliable, à chaque épisode vous découvrirez avec moi le ou les premiers chapitres de livres fantastiques, d'horreur ou d'autres genres suivant mon envie. Et comme je perds un peu les mémoires, je n'ai pas le titre ni l'auteur. Cela sera à découvrir avec un résumé et un avis lors de l'épisode suivant, et je l'espère, je vous donnerai envie de prolonger la lecture de ces ouvrages. Donc si quelqu'un reconnaît l'œuvre entre-temps, n'hésitez pas à me contacter via Twitter en DM, @easyreader_, ou par mail à bruno@stalfo.com pour me donner un petit avis. D'ailleurs, un petit coucou à Victoire, merci pour ton mail et merci pour les encouragements, cela me va droit au cœur. Afin de profiter au mieux de l'émission, je vous rappelle que le port du casque audio est fortement recommandé. Mais avant de commencer la lecture, revenons sur l'épisode précédent. L'ouvrage était Le Couteau Sacrificiel, Familiar Spirits, de Lisa Tuttle, sorti en 1983. Un ouvrage qui m'a très longtemps intrigué dans la bibliothèque de par la couverture illustrée de l'édition J'ai lu de 87. C'est donc pour le podcast que je me suis lancé dans la lecture. Lisa Tuttle est une autrice texane, principalement novelliste, et nous lui devons notamment Compagnon de nuit, Ainsi naissent les fantômes, Elle qui se vauche les tempêtes, coécrit avec un certain George R.R. Martin, et Le couteau sacrificiel, qui fut son premier roman. Elle est également connue pour son engagement féministe, participant ainsi au mouvement de féminisation du genre littéraire horreur et fantastique aux États-Unis dans les années 80. Elle écrivit également, en 86, Encyclopedia of Feminism. Mais que nous raconte Le couteau sacrificiel ? Suite à une rupture sentimentale, Sarah emménage dans une maison à l'écart de la ville afin de prendre un nouveau départ. Très vite, un sentiment de malaise l'envahit et Sarah découvre qu'elle n'est pas la seule locataire du logement. L'intrigue du roman semble vue et revue, maison hantée, envoûtement, médium. La plupart des clichés sont présents mais on se laisse vite emporter par l'histoire et Lisa Tuttle nous dépeint un personnage réellement attachant. Malheureusement, la lecture est gâchée et devient laborieuse à cause de la traduction française catastrophique de l'édition J'ai lu, notamment le traducteur qui ne s'est pas donné la peine de distinguer le tutoiement et le vouvoiement, ce qui est très déstabilisant. Et j'attends toujours l'apparition démoniaque présente sur la couverture, comme quoi il ne faut pas se fier à celle-ci. Mais je tenterai très certainement d'autres nouvelles de cette autrice, car les thématiques abordées et le sous-texte féministe sont très intéressants et les principaux défauts viennent d'une mauvaise traduction. Ce n'est donc pas un roman que je déconseille, mais lisez-le en VO ou trouvez une autre version. Et maintenant, installons-nous bien dans le canapé, baissons la lumière, ouvrons le roman et commençons la lecture. Article tiré du World News Network, version en ligne, 19 octobre. L'affamé de Price County, par Huntington Mulvaney. Chers lecteurs, nous venons de recevoir des nouvelles effarantes en provenance de l'un de nos avant-postes les plus isolés, la petite communauté de pêcheurs de Lower Montague, sur l'île du Prince-Édouard, une morne pointe rocheuse et inhospitalière émergée des eaux de l'Atlantique. Ai-je tort de croire qu'il s'agit de l'endroit idéal pour un brin de diablerie ? Heureusement pour vous, nos yeux et nos oreilles sont partout. Nous voyons tout, nous entendons tout. Cette nuit, Sadie Atkins, serveuse au Diplomate Diner à Lower Montague, s'est fait dérober son vieux pick-up de marque Chevrolet dans un parking du diner par un voleur anormalement émacié. Atkins a appelé à notre ligne sans frais après que la flicaille du cru eut cruellement et malicieusement rejeté ses supplications, les jugeant, et nous citons, « ridicules et insensés ». Moi, je peux vous dire qui a piqué mon foutu pick-up, a déclaré Atkins. Un vrai crève-la-faim. Un homme non identifié, aux cheveux taillés ras et aux vêtements amples, est entré au diplomate à 21h. D'après Atkins, l'individu souffrait de malnutrition avancée. Maigre, je vous dis pas, s'est exclamé Atkins devant nos intrépides chercheurs de vérité. Jamais de ma vie j'ai vu un homme aussi squelettique. Mais qu'est-ce qu'il était goinfre ! Atkins rapporte que l'individu a consommé 5 petits déjeuners de la famée, qui consistent chacun en 4 œufs servis avec 3 pancakes, 5 tranches de bacon, un chapelet de saucisses et des toasts. Il a tout bouffé, jusqu'à notre dernier œuf, a ajouté Atkins. Il s'envoyait des pelletés dans la gueule et en redemandait. Son ventre a dû se gonfler comme une outre. Quand j'ai surpassé avec sa 3e platée, ou peut-être que c'était sa 4e, je l'ai vu en train de s'enfiler les serviettes de table. Il les arrachait du distributeur, les mastiquait et les avalait. Après avoir réglé l'addition, l'homme non identifié est parti. Un peu plus tard, en sortant, Atkins a découvert que son pick-up avait disparu. Une nouvelle bassesse odieuse. « Je peux pas dire que ça m'a étonné », a-t-elle expliqué. « On dirait que tous les maux de la terre s'étaient abattus sur ce type. » Elle est restée silencieuse un moment avant d'ajouter un dernier détail sordide. « J'entendais quelque chose en dedans de lui. Je veux dire, sous sa peau, je sais que ça a l'air dingue. » L'homme non identifié court toujours. Qui est-il ? D'où vient-il ? Les grands initiés, et nos fidèles lecteurs connaissent parfaitement ceux dont nous parlons, le gouvernement, les services secrets, les Templiers, les Illuminati, les acteurs de l'ombre habituels, refusent d'offrir la moindre explication. Mais nous remuons ciel et terre et fouillons des fichiers occultes. Nous nous lançons sur toutes les pistes prometteuses que nous communique le public par l'entremise de notre ligne sans frais. Le mal plane au-dessus de la petite communauté de Prince County. Aucun homme ne peut avoir faim à ce point. Si vous avez aimé cet article, vous apprécierez peut-être aussi un cheeseburger tue un extraterrestre, Belzébuth capturé par des GI en Irak, un rejeton de l'enfer fait un carnage à Tupelo, El Chupacabra siphonne le sang d'un bambin dans un parc public. Mange, 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 mange. Le bateau ricocha sur les vagues, le vrombissement de son moteur se répercutant sur les eaux du golfe du Saint-Laurent. La lune faisait penser à un hameçon en os suspendu dans le ciel clair d'octobre. L'homme était mouillé par les éclaboussures qui passaient par-dessus le plat-bord. Sa silhouette était visible sous ses vêtements détrempés. On l'eût facilement confondu avec un épouvantail laissé à l'abandon dans le champ d'un cultivateur, éviscéré par les charognards. Il avait volé le bateau à North Point, à l'extrémité septentrionale de l'île du Prince-Édouard. Il avait rejoint le quai à bord d'un pick-up dont il avait court-circuité le contact dans le parking d'un diner situé en bordure de route. Putain qu'il avait faim. Il avait tellement mangé qu'il s'était ouvert la paroi de l'estomac. Le contenu de son ventre s'écoulait par la fissure et s'immisçait entre ses organes. Il n'en était cependant pas conscient. Dans son état actuel, il n'en aurait rien eu à foutre. Ça lui avait procuré un bien fou de combler le vide en lui. Mais on aurait dit qu'il remplissait de terre un trou sans fond. On avait beau jeter pelleté après pelleté, ça ne faisait pas la moindre différence. 75 km plus loin, il s'était arrêté de nouveau après avoir aperçu la carcasse d'un raton laveur dans le fossé, éventré, sa colonne vertébrale luisant à travers son pelage. Il avait dû fournir un effort surhumain pour ne pas arrêter son véhicule et ramper jusque dans le fossé pour... Il ne l'avait pas fait, il était encore un humain après tout. Les tiraillements de la faim allaient cesser, se rassurait-il. Il y avait des limites à ce que pouvait contenir son estomac. N'était-ce pas un principe scientifique ou quelque chose du genre ? Mais cette sensation ne ressemblait à rien qu'il avait connu par le passé. Des images se bousculaient dans son esprit comme un diaporama. Ses mets préférés apprêtés avec soin, luisants, juteux à souhait, trop parfaits, tirés des pages de papier glacé du magazine Bon Appétit. Un festin indécent, bizarrement sexuel, hyper stylisé et obscène. Il voyait des cerises confites qui débordaient d'une part de tarte feuilletée, chacune gorgée au seuil de l'éclatement telles des globes oculaires révulsés et injectés de sang, le tout couronné d'un panache de crème fouettée. Un beefsteak aussi épais qu'un dictionnaire, son os lui faisant de l'œil au milieu des marbrures de la chair grasse, noircie et croustillante à souhait, un carré de beurre aux herbes fondant au sommet, On dirait presque que la viande pousse un soupir alors que s'enfonce le couteau. La chair rôtit cédant aussi aisément que les gonds bien huilés d'une porte. Que ne mangerait-il pas à présent? Il voulait ce raton laveur. Si la carcasse avait été devant lui, il aurait arraché les lambeaux de chair durcie de son pelage en loques. Il aurait écrasé son crâne et farfouillé parmi les éclats d'os à la recherche de son cerveau qui serait aussi délicieux que le fruit d'une noix. Pourquoi n'avait-il pas tout simplement mangé la putain de bestiole? Se lancerait-il à ses trousses? Il s'y attendait. Il était leur plus grand échec. L'incarnation d'un ratage, mais aussi le détenteur de leurs secrets. Il était toxique, tellement toxique. Du moins, c'est ce qu'il les avait entendu dire. Il n'avait pas envie de blesser qui que ce soit. La possibilité qu'il ait déjà fait du mal à quelqu'un l'atteignait au cœur. Qu'avait dit Edgerton encore? Si ça se sait, Marie Typhoïde aura l'air aussi inoffensif que Marie Poppins. Il n'était pas homme mauvais. Pris au piège, il avait fait ce que n'importe qui aurait fait à sa place. Il s'était enfui. Et il l'avait pris en chasse. Tenterait-il de l'attraper et de le ramener à Edgerton? Il se demandait s'ils oseraient à présent. Il n'y retournerait pas, il se cacherait et resterait planqué. Plié en deux, il manqua de passer par-dessus bord. Les tenailles de la faim broyaient ses entrailles. Il clignait à des yeux pour chasser des larmes brûlantes et vit un point de lumière vacille à l'horizon. Une île? Un feu de camp? Tim Riggs, ou chef Tim comme l'appelaient les jeunes scouts à sa charge, traversa la pièce centrale de la cabane et prit une tasse dans l'armoire de la cuisine. En ouvrant son sac à dos, il repéra la bouteille de Glenlivet. Les garçons étaient au lit. Ils ne dormaient pas, évidemment. Ils restaient éveillés la moitié de la nuit à se raconter des histoires d'épouvante quand ils en avaient la permission. Il la leur accordait très souvent. Personne ne le taxerait de rabat-joie et d'ailleurs, cette sortie représentait les seules vacances que connaîtraient certains de ces garçons. C'était des vacances pour Tim aussi. Il se versa une bonne rasade de scotch et sortit sur la véranda. L'île de Falstaff reposait tranquillement sous la couverture de la nuit. Les vagues se brisaient sur la plage située en contrebas avec un roulement sourd qui semblait émaner du sol. Des insectes bourdonnaient contre la moustiquaire. Des papillons de nuit heurtaient sans cesse de leur corps poudreux l'ampoule solitaire. La nuit était fraîche, la lumière de la lune dégringolait dans la dentelle des branches nues. Rares étaient les arbres de grande taille. L'île était un massif de roches brutes, jaillies de l'océan. Une mince couche de terre recouvrait sa surface. Les arbres étaient tous uniformément chétifs et malingres, comme des enfants nourris au lait avarié. Tim laissa rouler le scotch dans sa bouche. Seul médecin sur la rive nord de l'île du Prince-Édouard, il n'aurait pas voulu qu'on le surprenne à boire en public. Mais ici, à des kilomètres de son cabinet et de ses responsabilités professionnelles, un petit verre tombait sous le sens, relevé de l'essentiel même. Il savourait cette sortie annuelle. Certains auraient pu trouver ce raisonnement étrange. Ne jouissait-il pas déjà assez de la solitude de sa maison du Cap, traversée de courants d'air? Mais il s'agissait d'un autre type d'isolement. Pendant 2 jours, les garçons et lui seraient seuls. Une cabane, quelques sentiers. Un bateau les avait déposés avec leurs provisions plus tôt ce soir-là. Ils repasseraient dimanche matin. Cette sortie avait failli ne pas avoir lieu. On annonçait une tempête pour la fin de semaine. Le bulletin météorologique prévoyait qu'elle arriverait du nord, un de ces monstres déchaînés à tête multiple qui s'abattent de temps à autre sur la province insulaire, mi-tempête, mi-tornade, arrachant les bardeaux des toits et sectionnant les arbrisseaux à la base. Toutefois, les dernières images satellites indiquaient que la tempête virerait à l'est, vers l'Atlantique, où elle épuiserait ses forces sur les vastes étendues désertes. En guise de précaution, Tim s'était assuré de la charge complète de la radio marine. Si les cieux devenaient menaçants, il ferait en sorte qu'on vienne les chercher plus tôt. À vrai dire, il détestait avoir besoin de la radio à ondes courtes. Tim avait établi des règles strictes pour cette sortie. Pas de téléphone, pas de console de jeu. Il avait obligé les garçons à vider leurs poches sur le quai à North Point pour être certain qu'ils ne passent pas en douce un objet qui les relierait à la terre ferme. Compte tenu du temps, la radio était un mal nécessaire. Comme disait le manuel des scouts, toujours prêt. Un éclat de rire lui parvint du dortoir. Kent, Ephraim, Tim n'intervint pas. À leur âge, les garçons disposaient d'une énergie débordante. Des machines qui carburaient à la testostérone et à l'adrénaline pure. Ils pourraient entrer en trombe et les faire taire à coups de « Chut !» en leur rappelant la longue journée qui les attendait le lendemain. Mais à quoi bon ? Ils s'amusaient et ne manquaient jamais d'énergie. En réalité, ce voyage avait autant d'importance pour Tim que pour ses protégés. Ils n'étaient pas mariés et n'avaient pas d'enfants. À 42 ans, installés dans une petite ville où les parties potentielles se faisaient rares, ils ne s'attendaient plus à rien. Il avait grandi en Ontario et avait déménagé après son internat. Il s'était acheté une maison sur le Cap et avait appris à pêcher le homard. Vous voyez, je fais un réel effort. Et s'était accommodé du rythme de la vie sur l'île. Bordel, même sa voix avait pris une touche de couleur locale. Malgré tout, il serait à jamais considéré comme une pièce rapportée. Les gens ne manquaient ni de gentillesse ni de respect pour ses compétences professionnelles. Mais dans ses veines coulait le flot d'un habitant du continent. Il portait la tare de Toronto, une ville peuplée de snobidards nantis diamétralement opposés aux petits rustres mal dégrossis de l'île du Prince-Édouard. Dans ce coin du monde, il est tout aussi important de savoir de qui vous descendez que d'où vous venez. Les liens du sang sont étroits et les résidents de l'île se serraient les coudes. Par chance, les scouts de Tim se foutaient qu'il soit une pièce rapportée. Il incarnait tout ce qu'ils auraient pu désirer chez un chef. Avisé et serein, respirant la confiance tout en renforçant la leur, il connaissait la flore et la faune locale, savait tendre un collet et allumer un feu à partir d'une seule allumette. Mais surtout, il les traitait avec respect. Même si les garçons n'étaient pas tout à fait ses égaux, Tim donnait l'impression qu'il les considérerait ainsi une fois qu'ils auraient accompli les rites de passage obligatoires. Leurs parents faisaient confiance à Tim. Leur famille figurait toutes parmi les patients de son cabinet à North Point. Les garçons étaient très proches, tous les cinq avaient fait ensemble les castors, les louveteaux, les éclaireurs et maintenant les pionniers. Tim les connaissait depuis la première réunion de leur colonie, un quintet de gamins de 5 ans récitant avec hésitation la promesse des castors. « Je promets d'aimer Dieu et d'aider à bâtir un monde meilleur. » Mais cette sortie serait leur dernière et Tim savait pourquoi. Être scout, eh bien, c'était cucu. Les gamins de cette génération n'avaient pas envie de s'habiller en uniforme beige, ne voulaient pas nouer un foulard autour de leur cou ou travailler pour obtenir des badges et des récompenses. Le mouvement actuel était surpeuplé de petites merdes inadaptées socialement ou de pénibles lèches-culs dont l'écharpe portée en bandoulière était bardée de badges. Mais ces cinq garçons sous la supervision de Tim étaient restés dans le mouvement scout parce qu'ils en avaient simplement envie. Kent était l'un des garçons les plus populaires de l'école. Ephraim et Max avaient également la cote. Shelley était un drôle de numéro, d'accord, mais personne ne lui causait d'ennui. Et puis, il y avait Newton. Newt était un nerd. Un bon gamin, incroyablement intelligent, mais avouons-le, un nerd en puissance. Ce n'était pas seulement parce que le garçon avait de l'embonpoint. C'était là un obstacle social qu'on pouvait surmonter. Ni meilleur ni pire qu'un bec de lièvre, de l'acné ou des vêtements miteux. Non, le pauvre Newt était simplement un nerd de naissance, comme c'est le lot de certains êtres infortunés. Si Tim avait été présent lors de l'accouchement, il l'aurait flairé. Une essence intangible, à la fois invisible et profondément ressentie, exsudée du corps du bambin comme une phéromone. Tim s'imaginait le médecin tendre Newton à sa mère épuisée en hochant tristement la tête. « Félicitations, Madame Fenton, vous avez donné naissance à un nerd en parfaite santé. » Il deviendra sans doute un homme merveilleux, mais dans l'immédiat, il sera une mauviette de première qualité, un geek pur jus. Tous les garçons avaient une odeur selon Tim, mais ce n'était pas qu'une signature olfactive dans l'esprit de Tim, c'était une émanation puissante qui enveloppait tous ses sens. Par exemple, il y avait l'odeur de la brute de la cour d'école, acide et adrénalinique, semblable au relent pénétrant que dégage un amas de vieilles piles striées des traces vertes de l'oxydation, ou l'odeur du sportif, la pelouse bien entretenue, la craie en poudre et la puanteur des vestiaires qui exhalent un amoncellement de tapis de sol. L'odeur du sportif émanait puissamment de Kent Jenks. Il était plus difficile à définir celle des garçons comme Max et Ephraim. Ce dernier produisait souvent une odeur de fil électrique, de transformateur qui aurait explosé au milieu d'une averse. Shelley, réfléchit Tim entre deux gorgées de scotch en se rendant compte que le garçon n'avait tout simplement aucune odeur, si ce n'était le bouquet vaporeux et insaisissable d'une pièce aseptisée dans une maison depuis longtemps inhabitée. Quant à Newton, il empestait le nerd à 10 km à la ronde. Une odeur instringente et immanquable qui évoquait un mélange de sous-sol mal aéré, de recoins de bibliothèques humides, de cabanes dans les arbres construites pour un seul occupant, de poussière roussie de tours d'ordinateur, du goût anisé de la vapeur d'un inhalateur contre l'asthme ainsi que d'effluves vaguement narcotiques de colle à modèle réduit. Les relents ineffables de l'isolement et de la résignation solitaire. Au fil du temps, le corps d'un garçon change aussi. Ses épaules tombent pour le rendre moins visible, à la manière des animaux sans défense qui transforment leur apparence pour tromper les prédateurs. Ses yeux se mettent à reluire comme ceux d'une bête traquée. Newton n'y pouvait rien, c'était un trait inscrit dans son code génétique, inséparable de ses autres talents, lesquels, comme l'avait noté tristement Tim, étaient nombreux mais peu utiles à son âge. Newt était indéfectiblement bon et poli. Il lisait et cherchait ouvertement à s'améliorer. Il déclenchait autour de lui l'équivalent d'une sirène anti-aérienne qui retentirait dans un quartier paisible. « Alerte aux nerds, alerte aux nerds !» Tim était incroyablement protecteur envers Newton et son incapacité à l'aider l'attristait. Mais lorsqu'un adulte prend la défense d'un garçon, cela ne fait que l'exposer à de nouveaux tourments. Tim sortit de la véranda pour éteindre le générateur. Les moustiques le prirent aussitôt pour cible. Il les sentit sur sa nuque comme des ivrognes au bar qui s'apprêtent à prendre une bonne cuite. Il les chassa de la main en se dirigeant vers l'arrière de la cabane. Il frôla le mur de ronda de ses doigts pour garder l'équilibre. Il avait sans doute bu ce scotch un peu trop vite. Les moustiques fonçaient sur lui, ils se posaient sur chaque parcelle de sa peau exposée, plongeaient leurs dards pour y injecter leur poison irritant. Il tomba sur le générateur et s'érafla le tibia contre le caisson métallique, cherchant à tâtons l'interrupteur tout en repoussant les bestioles assoiffées de sang. Il fit une pause pour balayer du revers de la main le voile impénétrable d'insectes et réussit enfin à éteindre la machine. La lumière de la véranda s'estompa. Dans l'obscurité nouvelle, on aurait dit que les moustiques s'étaient multipliés de manière exponentielle. Tim eut l'impression qu'ils étaient partout, leurs pattes desséchées dansaient sur sa peau, le bourdonnement affolant de leurs ailes de papier remplissait ses oreilles. Il leur asséna sauvagement des claques, réprimant à peine le cri soudain qui s'élevait du fond de sa gorge. Il sentait le voile opaque et lancinant qu'il cernait de toutes parts, un sueur bourdonnant de dards empoisonnés. Il ciblait ses oreilles, chatouillait ses narines, s'en prenait au contour de ses yeux. Saloperie de bestiole! Cherchant la porte à l'aveugle, Tim l'ouvrit toute grande et se réfugia en titubant sous la véranda. Il se secoua à la manière d'un cow-boy qui chasse la poussière de ses vêtements après être tombé de sa monture, écrasant les corps fragiles des moustiques avec délectation. Tim poussa un profond soupir qui se transforma en un rire nerveux. Ses mains étaient toutes collantes d'insectes écrabouillés. Il pensa à Gulliver, ficelé par des milliers de lilliputiens. Une scène qui ne l'avait jamais effrayé jusqu'à maintenant. L'idée que des milliers, voire des millions de petits assaillants puissent s'en prendre à lui était en fait plutôt terrifiante. De nouveau plongé dans le silence, il entendit un bourdonnement régulier se déplaçant sur les eaux. Le bruit d'un moteur hors bord. S'était-il passé quelque chose de grave sur l'autre rive? Non, on l'aurait prévenu. Il entra et vérifia la radio à ondes courtes. Elle émettait un léger sifflement, preuve qu'elle fonctionnait. À l'extérieur, le vrombissement s'intensifia. Tim alluma une lampe tempête et s'assit sur la véranda. Il gratta les piqûres sur son cou, ses poignets et ses mains. Un frisson monta de ses jambes jusqu'à son ventre qui se contracta douloureusement tandis que se hérissait la peau de ses bras. Il éclata de rire, un gloussement confus, et frotta ses mains sur sa peau, grêlée comme l'écorce d'une orange. Sa vessie se gonfla d'urine alors que l'agréable saveur du scotch tournait allègre dans sa bouche. C'est un fait indéniable que le mal commis par autrui a vite fait de devenir notre propre vilainie, précisément en vertu du redoutable pouvoir qu'il possède d'allumer ou d'attiser le mal qui sommeille dans notre âme. Carl Jung. Cours de psychologie de première année à l'université. Tim conclurait plus tard que Jung était un fanfaron et un uluberlu, et que de toute façon, ses théories étaient de peu d'utilité pour un médecin généraliste dans une petite ville où le quotidien consistait à administrer des vaccins contre la grippe et à retirer les ongles incarnés des orteils de pêcheurs à la peau tannée par le vent. D'ailleurs, Tim avait oublié le titre du livre de Jung et le nom du professeur qui avait enseigné cette matière. Mais la citation lui était revenue en entier. Les mots avaient surgi d'un recoin obscur de sa mémoire. Le mal commis par autrui a vite fait de devenir notre propre vilainie. Immobile sur la véranda, Tim Riggs se sentait vaguement troublé sans savoir pourquoi. Le vent mordant siffla entre les branches des arbres rachitiques tandis que d'autres rumeurs inexplicables remontaient de la plage, attendant qu'un mal inconnu se manifeste. Mange, mange, il fait noir, si noir, le vide. Plutôt il avait vu une lumière, il l'avait suivie, comme un papillon de nuit attiré par une flamme. À présent, elle avait disparu. Il ne restait plus que cette folle obscurité à vous arracher les yeux. Et cette faim. L'homme se traîna sur la plage rocailleuse, glissant sur les galets polis par les vagues. Les pierres étaient recouvertes d'algues lisses et froides dont la texture rappelait la morve. Il enfourra une pleine poignée dans sa bouche, aspirant entre ses lèvres les sombres filaments verts comme un enfant se délectant de nouilles aux œufs. Juste là, cliquetant au sol, sa carapace luisant dans le clair de lune, un crabe s'enfuyait. Sa main se referma sur lui. Le froid de l'océan transperça sa chair, et il l'enfourna. Il le sentit danser sur sa langue avec ses petites pattes poilues. Il le mordit. Un fluide gluant et salin gicla dans sa bouche. Une des pinces entailla le bout de sa langue dans un spasme d'agonie, libérant le goût féreux du sang. Il avala convulsivement les morceaux qui tressaillaient encore. L'exosquelette épineux déchira les tissus mous de sa gorge qui lui semblaient si frêles à présent. Un simple tuyau de chair, la peau enveloppant son oesophage devenu aussi tendu que du papier crêpé. Un sentier apparut, tracé à travers les herbes hautes. Il vit une araignée noire sur un brin d'herbe. Il la passa entre ses doigts avant qu'elle s'échappe et la mangea. Délicieuse, délicieuse, succulente même. Il plissa les yeux. Il vit une forme rectangulaire perchée à flanc de colline, son ombre appuyée contre la nuit opaque. Ses lignes étaient trop parfaites pour qu'elles n'aient pas été fabriquées par la main de l'homme. Un faible rayon de lumière émanait de l'intérieur. Tim entendit l'homme avant de l'apercevoir. Il l'entendit s'amener à pas torturés, se traînant comme un ours désorienté tiré de l'hibernation. De nature, Tim était calme et imperturbable. Un précieux trait de personnalité pour un médecin dont la journée consistait à apaiser et à soigner un garçon pour un simple cas de varicelle, pour ensuite insérer un tube trachéal dans la gorge d'une fillette ayant subi un choc anaphylactique à la suite d'une piqûre d'abeille. Il avait passé près d'une année en Afghanistan avec Médecins Sans Frontières. S'il avait été nerveux de nature, il n'aurait jamais tenu aussi longtemps. Son esprit se portait tout naturellement vers les causes les plus plausibles, et à partir de là, faisait calmement l'inventaire des répercussions possibles. Premier constat, un bateau venait d'arriver. Il pouvait s'agir des parents de l'un des garçons. Newton avait-il oublié son inhalateur? Probablement pas, vu que Newton oubliait rarement quoi que ce soit. Un bateau avait-il fait naufrage? Quelques chalutiers qui auraient chaviré en pêchant la gauberge dans les eaux occidentales? Il est rescapé débraillé arrivé en canot de sauvetage? Tim se mit à envisager toutes les hypothèses. Si la dernière était la bonne, ils auraient besoin d'assistance médicale. Il leur administrerait les soins de base sur la plage au besoin, puis appellerait pour qu'on envoie un hélicoptère du service médical d'urgence. Ou bien, il pouvait s'agir d'un ivrogne qui aurait perdu son chemin au cours d'une partie de pêche nocturne. Contrairement aux soulards de sa ville natale, qui se rabattaient sur les maisons closes à la fermeture des bars, les gens du cru prenaient la mer. Poussant à fond leur skiff à moteur, ils beuglaient comme des taureaux en ricochant sur les vagues. Ou bien ils lançaient une ligne et avançaient à bas régime sur les eaux. Quelques années auparavant, un poivron du nom de Lester Hams était mort de froid sur son bateau. Jeff Jenks, le chef de la police de North Point, l'avait retrouvé à 7000 marins du Cap, sa peau cristalline couverte de frimas, comme un steak oublié au congélateur, dépourvu d'emballage, son cul gelé soudé à son siège, deux défenses de glace morveuses jaillissant de ses narines. Le bateau de Lester poursuivait tranquillement sa course et aurait atteint la limite du plateau continental avant longtemps pour ensuite dériver vers la haute mer. Tim s'imaginait son cadavre congelé bercé par le roulis au large du Groenland, effrayant bois flotté qu'un ours polaire viendrait renifler avec curiosité. Peu importe qui c'était, Tim était sûr qu'il ne représentait aucune menace. Sûr à 99%. Deuxième constat, les garçons et lui se trouvaient sur une île isolée à plus d'une heure de chez eux. Ils ne disposaient d'aucune arme, hormis leurs couteaux. Des lames ne faisant pas plus de 10 cm, comme le prescrivait le manuel du scout, et un pistolet lance-fusée. C'était la nuit, ils étaient seuls. Tim ouvrit lentement la porte de la véranda du bout de sa botte. Elle poussa un léger couinement, comme un clou rouillé qu'on retirait d'une planche de bois humide. Il fit le tour de la cabane, son pouls battant jusque dans les veines de son cou. Les moustiques clapotaient dans les gouttes de sa sueur. Il aurait dû apporter la lampe tempête, mais un signal issu du plus profond de son cerveau reptilien lui disait « Reste dans le noir, ne te montre pas ». Il dégaina son couteau de chasse et en appuya le plat contre sa cuisse. Sa conscience rationnelle lui disait « C'est ridicule, tu agis comme un idiot, un vrai parano. » Mais la part primitive et instinctive de son être n'émettait que le bourdonnement insensé d'une ruche d'abeilles tueuses. Le vent hurlait au ras du sol, gagnait en force alors qu'il se faufilait parmi les rochers et les arbres étiolés, s'élevant en un murmure sourd comme le chuchotement d'enfants au fond d'un puits. Il fouettait les mollets de Tim, des langues de glace le pénétraient jusqu'aux os. Il plissa les yeux en direction de la limite des arbres, pressentant quelque chose. Les ombres fusionnaient pour atteindre une certaine densité. Une silhouette se matérialisa parmi l'enchevêtrement des branches. Tim inspira brusquement. À la lumière d'une lune anormalement claire, il vit une créature tirée de ses plus sombres cauchemars d'enfance prendre forme. Un monstre putréfié tout droit sorti de la mer. Il n'était guère plus qu'un squelette dont les os étaient reliés par des muscles boursouflés et dont les chairs grisâtres pendaient en loques. La chose avançait lourdement en marmonnant. La terreur cloua Tim sur place. La créature traversa péniblement un rayon de lune qui vacillait le long des hautes herbes. La lumière redonna au cauchemar sa forme véritable. Un homme, si horriblement maigre que sa survie même tenait du miracle. Tim sortit de sa cachette sans réfléchir, poussé par le désir instinctif d'apporter son aide. « Hé, ça va ?» L'homme braqua ses yeux brûlants sur lui. Son regard transpirait la terreur à l'état pur et le désir extrême. Mais ce qui terrifia Tim fut l'inquiétante fixité de son regard. De toute évidence, cet homme cherchait quelque chose. Il en avait désespérément besoin. L'étranger se rapprocha d'un pas lourd, lissant les boutons de sa chemise, passant une main tremblante dans ses cheveux gras. Soudain, Tim comprit. L'homme faisait un effort symbolique pour se rendre présentable. « Avez-vous quelque chose à manger ?»« Peut-être bien, » répondit Tim. « Vous êtes seul ?» L'homme hocha la tête, un filet de bave tremblotant s'échappa de sa bouche, resta suspendu quelques instants, puis tomba. La peau de son cuir chevelu était si tendue qu'elle semblait sur le point de se fendre. Les ramifications de ses capillaires s'étendaient sur son nez, ses joues et le long de son cou, comme le tracé des rivières sur une carte topographique. Ses bras jaillissaient de ses manches comme des cure-pipes. Sa peau moulait les os de ses avant-bras de sorte que ses coudes avaient l'apparence de cordes nouées. « Et vous, vous êtes seul ?» lui demanda l'homme. Il était plus prudent de laisser entendre qu'il l'était. « Oui, je fais des analyses géologiques. » L'homme ramassa une poignée de terre rocailleuse et la fourra dans sa bouche. Son mouvement semblait involontaire, comme le clignement des yeux. « Wow, hé, vous n'avez pas à avaler ça !» s'écria Tim en essayant de garder son calme. « Je vais vous donner de quoi manger. » L'homme sourit, la grimace d'une tête de mort. Ses lèvres étaient de minces bandes de chair exsangue. Ses gencives s'étaient rétractées à tel point que ses dents avaient l'air de défenses jaunissantes qui s'entrechoquaient dans sa bouche. De la terre noire incrustée entre les interstices. Manger, oui, très bien, merci. En tant que médecin, Tim avait été confronté aux formes les plus révoltantes que pouvait revêtir le corps humain. Il avait vidé des poches pour colostomie, assisté à l'extraction de tumeurs d'estomac palpitantes, mais il n'était jamais entré en contact avec un malade aussi anormal. Une pointe de terreur vive traversa sa colonne vertébrale. Impur, lui souffla son esprit. Cet homme est impur. La puanteur de l'homme frappa Tim de plein fouet. Des relents fruités avec une note sous-jacente d'ammoniac, l'acétose. Le corps de l'homme décomposait ses réserves de graisse dans un ultime effort de maintenir en fonction ses organes vitaux. En brûlant, les cétones produisent une odeur douceâtre, la senteur d'un corps désespéré qui se consume lui-même. L'horrible puanteur qui émanait de sa bouche rappelait celle d'un panier de pêche pourrissant au soleil. Tim tenta de retenir son souffle, persuadé que l'odeur lui donnerait envie de vomir. L'homme vacilla en perte d'équilibre. Pour le retenir, Tim lui passa brusquement le bras autour de la taille. Il se recula quand sa main avait glissé sous la chemise de l'homme. Par-dessus son estomac, il avait perçu un mouvement. Quelque chose grouillait sous sa peau. « C'est absurde, se dit-il. Ce n'était qu'un ballonnement, peut-être même une hernie intestinale. Dieu seul sait ce qui cloche chez lui. » Malgré les protestations de son esprit, il n'arrivait pas à se défaire de la sensation. Elle persistait au bout de ses doigts, une résistance sournoise sous la peau, comme si quelque chose avait réagi à son toucher avant de se rétracter. Attiré par la lampe tempête, l'homme se dirigea vers la cabane avec la volonté aveugle d'un papillon de nuit. Ses yeux vitreux dans lesquels se reflétait la lune étaient vissés dans le masque désincarné de son visage comme deux fusibles brûlés. Tim tendit le bras, paume levée, pour l'arrêter, un geste purement instinctif. Il ne voulait pas que cet homme se retrouve à l'intérieur de la cabane avec les garçons. Pas tout de suite, peut-être jamais. « Attendez une minute, calmez-vous » dit-il en s'adressant à l'homme comme à un enfant hyperactif. « Vous êtes perdu, vous savez où vous vous trouvez ? Je ne vous ai jamais vu par ici. » L'homme s'appuya contre Tim en se balançant doucement sur ses jambes de sorte que la pression s'intensifiait et se relâchait, puis s'intensifiait de nouveau. Tim eut l'impression que l'homme savait que cette proximité le révoltait. Ce contact ondulatoire avec une peau qui sécrétait une transpiration huileuse comme la suie noirâtre d'un vieux bloc moteur. Tim rit comme s'il s'agissait d'une plaisanterie, d'un étrange malentendu, mais son rire avait une pointe cassante comme du verre qu'il transformait en gloussement dément. « Je suis perdu, » répondit l'homme. « Perdu et mal en point. Une seule nuit, je partirai demain matin. S'il vous plaît, donnez-moi à manger. » Vous avez de la famille ? Tim ne pouvait expliquer pourquoi la réponse à cette question était aussi capitale. Est-ce que cet homme comptait pour qui que ce soit ? Est-ce qu'on vous cherche ? L'homme répéta simplement. Une seule nuit, de la bouffe, s'il vous plaît. Tim songea à le laisser un moment. Il pourrait lui apporter de quoi manger pour qu'il aille se repaître dans les bois. Son choix de mots l'étonna, et pourtant l'expression lui semblait juste. Cet homme n'avait pas juste envie de manger quelque chose, il avait besoin de se repaître. Tim obligerait les garçons à rester dans le dortoir pour empêcher tout contact. Le fait de laisser cet homme à l'extérieur allait à l'encontre de presque tous les principes du serment d'Hippocrate. Mais pour être un bon médecin, il fallait aussi savoir faire la part des choses. Tout le monde ne pouvait avoir la vie sauve, une triste réalité de l'existence. Il fallait donc sauver les plus jeunes ou ceux qui avaient les meilleures chances de survie. « S'il vous plaît. » L'homme esquissa le plus pitoyable des sourires. Tim pouvait-il réellement le laisser seul et affamé à quelques pas de la cabane ? Pourrait-il se regarder dans la glace après ça ? Non, il trouverait une solution. Il fallait prendre toutes les précautions nécessaires, mais il y arriverait. Fendu jusqu'aux oreilles, l'effrayant sourire de l'homme persistait. S'agissait-il d'une maladie que Tim ne connaissait pas, d'un trouble dégénératif ? Ou simplement d'une affection commune qui s'était aggravée inexplicablement ? Vous suivrez mes instructions à la lettre, ordonna-t-il de sa voix de médecin qui n'admet aucun écart. Fit l'homme. Si vous n'obéissez pas, je ne vous laisserai pas entrer. Le corps de l'homme buta contre la paume de Tim. La dureté des os à travers la plus mince des pellicules de chair évoquait une bâche en plastique recouvrant un tas de briques éclatées. Allez. « Venez. » Ainsi s'achève ce moment de lecture. Comme d'habitude, je vous rappelle que si vous avez reconnu l'ouvrage, vous pouvez me contacter en DM sur Twitter ou par mail afin de me donner un petit avis qui sera lu lors du prochain épisode. N'hésitez pas à partager, mettre un petit avis sur Apple Podcast, et je vous invite aussi à découvrir nos autres productions sur le site talfo.com et à venir nous faire un petit coucou sur les réseaux sociaux. C'était Calix, qui vous souhaite de belles lectures horrifiques, de belles découvertes fantastiques, et qui vous dit à bientôt dans Easy Reader.
Une création TALFHO.